France Musique. France Musique, les grands entretiens, Anne Montaron.
Je m'appelle Élise, Josette, Louise, Angèle, Caron. Je suis chanteuse à mes heures. J'écris, je compose de temps en temps. J'interprète le plus souvent. Je joue la comédie. Et puis, quoi d'autre ? Je vis.
Bonsoir. Bonsoir, les n'importe qui, les n'importe comment. Bonsoir, les rabougris, les rats des champs. Bonsoir, les guiliguilis, les gousigousis, les bigoudis, les frisottis. Bonsoir les gribouillants, les barbouillants, les dégoulinants, les dégoulinis, les dégoûtants. Bonsoir. Bonsoir.
Bonjour Élise Caron.
Bonjour Anne Montaron.
Merci de nous accueillir chez vous, en banlieue parisienne, dans un immeuble moderne.
De 1954.
Ouais. Qui donne sur des jardins, des potagers.
Ouais, des poules.
Des poules aussi. On est dans une ambiance assez orientale. Il y a pas mal de kilim là, au sol. Élise, vous avez évoqué tous les fils qui constituent, on va dire, le tapis Élise Caron. Il y en a beaucoup des fils. On va essayer de les parcourir ensemble et de reconstituer la toile, le tapis Élise Caron, qui est quand même très, très multiple. Votre mère était chanteuse, je crois.
Ma mère a toujours voulu être chanteuse, je le sais depuis peu de temps en fait, mais elle a fait partie de chorale depuis ses 16 ans et jusqu'au confinement en fait, elle a fait partie de plusieurs chorales et j'ai fait partie des chorales dans lesquelles elle se produisait aussi. Elle m'a emmenée avec elle quand j'étais petite, quand j'avais 11 ans, dans des chorales d'adultes. Faire du Mozart, du Bach, Monteverdi.
Ça a été votre première école alors de musique ?
Presque. En fait, j'ai toujours baigné dans la musique. Mon frère aîné, Olivier, faisait du violoncelle. Donc je me souviens, petite, de l'avoir vu faire une suite de Bach. Je me souviens, j'étais vraiment petite et je me souviens que c'était du Bach. Toute la famille, en fait, tous mes frères et sœurs ont fait un instrument et je suis la seule qui ait continué. Mais du côté de mon grand-père faisait du violon quand il était jeune, mais son frère était violoncelliste professionnel.
Grand-père maternel ou paternel ?
Charles Bartsch, maternel. Mon grand-père Nicolas Bartsch et son frère donc Charles était lui soliste et il a fait aussi partie, je crois qu'il était dans l'orchestre, il a travaillé avec l'Opéra Comique, il est venu en France, ils sont belges, je suis d'une famille belge du côté de ma mère.
Et votre père, il avait une sensibilité pour la musique ?
Énorme, énorme. Un très très grand mélomane qui écoutait absolument tout. Je crois qu'il a commencé à écouter de la musique très très jeune et ça ne l'a jamais quitté. Et il connaissait bien plus de trucs que moi. Il avait vraiment une culture incroyable.
Il faisait partager ?
Oui, il essayait.
Alors, quelle musique vous intéressait à l'époque ? Qu'est-ce que vous écoutiez, Élise Caron ?
Ah ben, j'écoutais forcément ce qu'écoutait mon père. Il écoutait beaucoup de musique sur des énormes baffles. Tout le monde entendait. Donc, ça passait de Vivaldi, Monteverdi, Bach, Bartok, Schoenberg, Webern, Berg, qui d'autres, Mahler, enfin, toute cette... Pas beaucoup d'opéra, mais beaucoup de musique de chambre et d'orchestre. Et mes trois frères aînés, eux, écoutaient plutôt Terry Riley, les Beatles, évidemment, parce que c'était en plein dedans. Ça allait de Jimi Hendrix à Frank Zappa, en passant par Albert Marker. Et puis, il y avait les choses communes, comme Dutron, Rissé Barrier, Bobby Lapointe. Ça, on écoutait Bobby Lapointe, Nougaro, Gainsbourg. Melody Nelson, ça, c'était notre disque de chevet, presque. Enfin, c'était très éclectique. Soft Machine, Robert Wyatt, Rock Bottom, par exemple, ça a été... Et moi, je me suis laissée complètement entourée de cette musique sans avoir de discographie personnelle. Je n'avais pas vraiment besoin.
C'était de l'imprégnation, en fait.
Oui,
la musique
parce
était
que je n'avais pas... J'avais pas l'impression qu'il fallait que je me constitue un goût particulier, puisqu'il tout était là, déjà. Et quand on me parlait d'autres groupes, je méprisais un peu. Non, moi, j'écoute pas ça. J'avais 12-13 ans.
Mélodie, tu m'en auras fait faire des conneries.
Justement, vous partagez avec les copines ou les copains de classe vos goûts musicaux ou pas du tout?
On faisait de la musique. On faisait de la musique, donc il n'y avait pas besoin de partager autre chose que ce qu'on faisait ensemble. Comme j'ai été mise dans les horaires aménagés dès la sixième. Voilà, après, ma culture à moi, c'était celle que je jouais. En fait, à la flûte, et puis après au chant, quand je suis rentrée en classe de chant.
La flûte est venue avant le chant? Non, c'est le chant qui est premier.
Non, pas du tout. Ce qui est premier, c'est le piano, mais j'en ai fait très peu. J'ai fait un an ou deux ans de piano.
En conservatoire?
Parce que ma mère, elle, puisqu'elle ne prenait pas de cours de chant, et elle a pris des cours de piano, il y avait un piano à la maison, et elle nous a fait faire donc tous du piano, ou presque tous, puis un autre instrument. Et je pensais donc, quand j'étais petite, que le piano, c'était pas un instrument, parce qu'il fallait passer par le piano pour accéder à un autre instrument. Mmh. Enfin, c'était une idée comme ça que j'avais bêtement. Donc après, j'ai fait de la flûte, parce que j'ai plus fait de piano, mais j'aurais pu continuer à faire du piano. J'aurais adoré, d'ailleurs. J'ai une base très, très... rudimentaire au piano.
Et pourtant, vous composez au piano, je crois.
Oui, c'est pour ça que tout ce que je fais est extrêmement simple. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose de sophistiqué et simple, plus exactement. Et après, je cherche, alors avec la main gauche, c'est toujours plus ou moins des quintes, des trucs un peu, voilà. Et puis, c'est avec la main droite que j'essaye de trouver des choses qui sortent un peu de mélodie trop simpliste.
Et vous arrive d'ailleurs de jouer du clavier en chantant sur scène, même quand vous êtes avec Denis Chouillet.
Oui, oui, oui. Je trouve ça pas très confortable, parce que je trouve que c'est plus... je préfère quand je suis vraiment en prise directe avec... la chanson et le public, plutôt que d'être rivé avec mes doigts sur les touches pour pas tomber à côté, et de regarder mes doigts plutôt que de regarder les gens, quoi. Donc ça, oui, je le fais parce que parce que c'est moins cher, je sais pas.
Alors le premier conservatoire Élise Caron, c'est celui de Rouen ou il y en a eu un autre avant?
Non, c'est celui de Rouen.
Ouais.
J'ai commencé en 1971. C'était super, c'était cool. On était très peu par classe, c'était vachement bien. On
vous
était 12.
10 ans, vous aviez?
Oui,
c'est ça.
10 ans, j'avais un an d'avance. J'ai commencé
donc, classe de
à
flûte,
la sixième.
De
classe
chant.
De flûte. Classe de flûte en sixième et je suis rentrée en chant à 15 ans, c'est-à-dire en première. Et en classe d'art dramatique après mon bac à 17 ans, en 78 exactement.
Comment est venu justement ce désir de jouer sur scène, de faire du théâtre?
J'ai quelques souvenirs de cours d'école quand j'étais en CP ou en CE2 parce que j'ai sauté le CE1. Je me souviens d'un jour où j'avais accaparé l'attention et que je ne me souviens pas ce que je faisais, mais je crois que je faisais le clown. Et j'ai souvenir de petites filles en train de rigoler à mes bêtises. Et enfin, c'est venu là, en fait. Vers 6-7 ans, je me suis dit que je ferais ça. Et après, j'ai des souvenirs de faire l'imbécile, vraiment. D'être derrière le pasteur, par exemple, un jour où on devait... il a dû faire pas un prêche, mais je ne sais pas ce que c'était. J'étais toute jeune, j'avais 7 ans. Je me souviens avoir été derrière lui et d'avoir mimé un match de boxe toute seule. Je sais pas pourquoi. Et personne n'était là pour me dire « Enfin, Élise, chut. » Je crois que j'étais habillée en arbre ou un truc comme ça. On devait faire les saisons de Vivaldi. Et puis l'arbre montait comme ça avec les branches, tout en papier crépon. et après, ben voilà, c'était peut-être un truc du... J'ai des petits îlots comme ça de souvenirs où je fais le clown qui m'ont donné envie de faire ça.
Faudra bien vérifier. Faudra bien tout vérifier. Vérifier le long du corps. Vérifier tout bien. Le long des bras, le long de l'arête du nez, le long du visage, le long... Vérifiez bien l'alignement, vérifiez les cheveux par rapport au corps. Faut bien vérifier. Vérifiez le long des rails, le long des précipices. Vérifiez. Faudra bien vérifier. Vérifiez bien le long des routes. Vérifiez bien le long des chemins. Vérifiez bien le long des trottoirs. Vérifiez bien le long du fleuve, le long des rivières, le long de la mer. Vérifiez tout bien. Vérifiez bien. Vérifiez.
France Musique. Les grands entretiens d'Élise Caron.
Il y a une figure, je crois, qui a compté aussi dans l'approche du langage, le goût pour le théâtre. C'est la figure du grand-père, le fameux Nicolas.
Oui. Nicolas et Élise, ma grand-mère. Élise et Nicolas, mes grands-parents adorés. Mon grand-père me racontait des histoires qu'il tirait de recueils de Henri Pourrat, qui était un collecteur qui avait fait toute la Provence, je crois, dans les années 20 ou 30. Et donc, il me racontait des histoires que tout le monde connaissait, le petit chaperon rouge, évidemment, la chèvre de Monsieur Seguin, mais d'autres histoires qui étaient moins connues, comme l'histoire du dragon vert, l'histoire aussi du jeune homme qui partait à l'aventure avec des éléments magiques, comme une bourse magique, une corne magique, une ceinture magique. Et sa façon de me raconter était toujours extrêmement vivante. Il fallait pas qu'il se gourre dans le choix des mots qu'il avait choisis au départ, comme par exemple ce grand Benet, le grand Benet. Chaque fois qu'il disait le nom de ce jeune homme, je le disais pratiquement en même temps que lui, parce que déjà ce mot Benet résonnait, était particulier. Et quand on a 6 ans, c'est vraiment des mots qui marquent. Et dans les histoires, comme chaque enfant, je crois, la répétition des mêmes mots, comme Blanchette, reviens Blanchette, et des expressions que je me rappelle de lui, très pénétrées, très croyant tellement à l'histoire qu'il racontait, que en fait, ça m'a vraiment plongée dans un univers onirique. Très tôt, magique, onirique. Quand je jouais toute seule, j'étais forcément une fée, j'avais forcément des pouvoirs, comme je pense beaucoup d'enfants, mais ça m'est resté.
Et ça traverse vos chansons, évidemment.
Oui, parce que j'ai compris à travers tout ce qu'il me racontait qu'il y avait toujours, pas une morale, mais que c'était toujours des histoires initiatiques et que les épreuves et les contes de fées, c'est pas forcément des trucs très drôles. C'est des choses avec des pétrifications, avec des armées, avec des lions avec des yeux aussi gros que des roues de charrette, par exemple, l'arbre aux pommes d'or, par exemple. Je n'arrive pas à retrouver ce conte, et ma fille essaye de le chercher aussi, parce que je crois que je lui ai raconté quand elle était petite, et je me souviens simplement des trois frères qui vont chacun en passant par un trou dans le sol pour... Enfin, et des arbres aux pommes d'or avec des princesses qui sont prisonnières d'énormes lions qui sont de plus en plus énormes et les princesses de plus en plus belles. Et le grand frère, puis le moyen, puis le petit, et le dernier arrive à libérer tout le monde. Et comme j'avais trois grands frères, forcément, il y avait des espèces de... ça se mélangeait avec la réalité un petit peu.
Voici l'histoire étrange, bizarre, curieuse, amusante, particulièrement particulière, d'un dragon, un grand dragon vert. Avec des ailes, des griffes et des écailles. Ce vrai grand dragon vert vivait au fond d'une forêt profonde. Comme tout bon dragon, il gardait un trésor, de l'or.
C'est très beau d'avoir gardé ce fil jusqu'à maintenant, d'ailleurs, ce fil du conte, du merveilleux, de la magie, de l'univers fantastique, du rêve, puisque vous continuez à dire des contes, à écrire des chansons qui sont traversées par cet univers-là. Il ne vous a pas quitté, jamais, à aucun moment.
Non, parce que ça fait partie de ma personnalité, en fait. Ça m'a appris, je ne vais pas dire que ça m'a appris la vie, parce que la vie elle m'a traversée, et puis j'ai eu plein bonne et mauvaise surprise, et puis je n'étais pas forcément armée, et encore maintenant, je ne me sens pas forcément toujours armée. Je suis à la fois toujours étonnée et jamais, un peu comme dans les rêves, où il nous arrive des choses extraordinaires, et puis elles nous arrivent comme ça, et même si on est un peu étonnée ou surprise, il y a toujours une partie de nous qui s'y attend. Mais en fait, je pense que ça m'a permis cette ouverture vers un monde dit merveilleux, qui n'a rien à voir avec la religion ou avec une croyance religieuse, mais avec une foi en notre propre conscience, et imaginer que chacun peut avoir une conscience morale, une envie d'être bon, d'être gentil, d'être accueillant, d'être respectueux. Enfin, c'est mon credo, en fait, même si je vois que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Mais il y a beaucoup de choses qui me dépassent, hein, de l'égoïsme ambiant et de la violence, de l'agressivité. Ça continue à me surprendre, en fait.
Numéro 3. Quatre membres attachés à quatre ressorts qui s'éloignent peu à peu et tiraillent lentement jusqu'à ce qu'enfin ils se détachent et que le tronc tombe dans un brasier. Une cloche de fer rouge lui sert de bonnet sans appuyer de manière que sa cervelle fond lentement et que sa tête grille en détail. Dans une cuve d'huile bouillante enchaînée, exposée droite à une machine qui lui lance 6 fois par minute un trait piquant dans le corps et toujours une place nouvelle. La machine ne s'arrête que quand elle en est couverte, les pieds dans une fournaise et une masse de plomb sur sa tête la baisse peu à peu à mesure qu'elle se brûle. Ainsi, peu à peu, tout le corps en détail. Elle est enchaînée à un pilier sous un globe de verre et 20 serpents affamés le dévorent en détail toute vie.
Quand les limites sont dépassées, je pleure. Parce que je n'ai pas d'autre arme qu'un désarroi total. Qui me laisse muette, pour le coup. C'est pas pour rien que j'ai toujours des problèmes de voix. Hein. Il y a plein de choses qui me rendent muette, qui me rendent mutique, qui me rendent... Ça, c'est depuis très longtemps, en fait. J'ai ça depuis très longtemps, mais depuis ma prime jeunesse. Sans doute parce qu'il y avait des choses qui me dépassaient dans les rapports humains, qui me semblaient hors de compréhension, qui me rendaient... muette.
J'aime le mystère, j'aime pas la guerre. la violence du monde effleurée dans les tout derniers mots de cette chanson pour les petites oreilles d'Élise Caron, « J'aime pas la guerre ». Pour conclure ce premier épisode des Grands Entretiens, réalisé par Anne-Pascale Desvignes, avec Marie le Peintre, Marie-Christine Ferdinand et Yves Lehors. La suite de ce portrait d'Élise Caron, demain à la même heure.
À réécouter sur francemusique.fr.